Bonjour à tous. En tant qu'enseignant des élèves de l'école d'Aix, j'ai la charge d'introduire leur intervention lors de la commémoration du 11 novembre. Sachez qu'ils prennent part de manière volontaire et qu'ils sont fort impliqués. Je leur ai confié un article relatant les étapes de la signature de l'armistice provenant du site Ça m'intéresse. Je vous laisse les écouter.
14-18. Histoire cachée de l'armistice. Pour amener les Allemands à accepter de conditions de cesser le feu très douloureux. Le maréchal Foch a fait preuve d'une rare psychologie.
Allô Eiffel, il est 6h du matin, ce 5 novembre 1918. L'antenne de la tour Eiffel détecte un signal en morse. Un jeune télégraphiste, Maurice Acott, note le message et se précipite pour le porter à son superviseur. Ce message, des millions de combattants l'attendent. Depuis des années, ils viennent de Berlin.
C'est une demande d'armistice adressée à la France par le chancelier allemand Max de Bade. Après 4 ans de combat, le conflit qui ravage la France et le monde va peut-être prendre fin. Les stratèges français n'osaient l'espérer sitôt. Ils misaient sur un cessez-le-feu au printemps 1919, après un an d'élitement de l'armée allemande.
Mais depuis la mi-juillet, tout s'est précipité. Les troupes américaines se sont lancées dans les batailles. Et surtout, les pouvoirs berlins font face sur son propre sol. À un début de la guerre civile, il n'a plus le choix. Le 5 au matin, le message reçu à la tour Eiffel est transmis au QG de Maréchal Foch, à 100 lis de l'Oise. Pour lui, c'était un teint soulagement.
Contrairement à certains qui voudraient envahir l'Allemagne, Foch juge que l'armée a déjà trop souffert. Après de rapides tractations avec les alliés, la réponse donnée aux Allemands est donc favorable. À Berlin, un convoi d'émissaires officiels se met en route vers le QG de l'état-major allemand établi à Spa en Belgique, occupé de là. Il rejoindra la France.
Pas question de recevoir l'ennemi en grande pompe à Versailles. Foch a un souci. Où va-t-il recevoir la délégation allemande? Il veut un endroit discret à l'abri de la presse et de la population. Pas question de recevoir l'ennemi en grande pompe à Versailles, ni même dans son QG de Senlis.
Cette ville a été incendiée par les Allemands en 1914. Son air et d'autres otages ont été fusillés par les soldats du Reich. Pour ses habitants, ce serait une provocation, une idée. Mais alors à l'état-major, pourquoi ne pas utiliser le train privé de Foch? Il a un avantage, sa mobilité.
Si les journalistes viennent à trop tourner autour, on peut toujours les déplacer et reprendre la discussion plus loin à l'abri des indiscrets explique l'historien Jean-Yves Bonnard, auteur de Rode Monde. Mais le problème n'est qu'à moitié résolu. Il faut maintenant trouver une voie cachée dans des grands axes de chemin de fer pour accueillir le convoi.
Le temps presse et des militaires explorent les tracés des lignes ferroviaires sur la carte et sur le terrain. Soudain, un fonctionnaire de la direction des transports ferroviaires, un certain Pierre Toubeau, tombe sur un segment de réseau s'enfonçant au cœur de la forêt de campagne.
Cet embranchement de kilomètres qui part de la gare de Rotonde a été posé en 1907 pour accueillir des canons à longue portée. Il se termine en un épi de plusieurs voies parallèles dans une petite clairière cachée au milieu des bois. C'est un cadeau du ciel. On pourrait y installer non seulement le terrain de Foch, mais aussi à côté un autre avec les émissaires allemands.
Les notes cessent, le feu s'élève, on n'a pas entendu cette air depuis plus de 4 ans. Le plan est adopté le 7 novembre à 20h20. Venant de Spa, les voitures des dignitaires de Reich franchissent la ligne de front à la commune de la Capelle. Dans l'Aisne, depuis des lignes françaises s'élèvent bientôt les notes du cessez-le-feu joué aux clairons par un jeune caporal. On n'a pas entendu ces airs depuis plus de 4 ans. Les armes se taisent.
Mais la trêve ne dura que le temps de conduire la délégation allemande à l'abri. D'abord à la gare de Ternier, puis en train jusqu'à la clairière où attend Foch. Le 8 au matin, après une courte nuit de sommeil, le chef de la délégation allemande rejoint avec ses camarades le train du maréchal français. Un négociateur chevronné, il s'attend à des discussions tendues. Mais il n'a pas imaginé ce qu'il va se passer. Sitôt entré dans le wagon, le député affirme son intention de négocier. Foch réplique d'une voix glaciale qu'il n'y aurait aucune négociation.
Si l'Allemagne veut l'armistice, elle doit remettre la quasi-totalité de son arsenal militaire aux Alliés, relâcher tous les prisonniers de guerre. Alors que les détenus allemands ne seront libérés qu'ultérieurement et accepter l'occupation de certaines de ces villes frontières pour la délégation allemande, c'est un véritable coup de massue.
Les journaux en sont réduits à inventer des fake news. C'est là peut-être que la discrétion des entrevues est si utile. Imaginons que les exigences alliées aient filtré dans la presse, les Allemands n'auraient-ils pas été tentés de rompre les pourparlers pour sauver leur amour propre et celui de leur pays, au lieu de quoi le secret de la clairière de Compiègne sera préservé, empêchant les passions de déborder.
Entre le 8 et le 11, les journaux sont tellement bien bernés qu'ils en sont réduits à inventer des fake news pour remplir leurs pages. Ainsi, le quotidien Excelsior affirme photomontage à l'appui que l'armistice est sur le point d'être signé au château du Francfort, près de Compiègne. Le pire est qu'après-guerre, des cartes postales du prétendu château de l'armistice seront vendues par dizaines de milliers.
Le plan du maréchal Foch a presque trop bien fonctionné. En somme, Esberger va avoir
besoin de 2 jours pour faire parvenir le document allié à Berlin et au QG de Spa. Une fois obtenu les soutiens du gouvernement et de l'armée, il retourne à la table des négociations le 10 novembre à 22h. Avec une ténacité rare, il arrache durant cette ultime nuit des concessions minimes à Foch, grâce auxquelles il conserve une minuscule arsenal destiné à éteindre la guerre civile dans son pays. Enfin, à 5h du matin, l'armistice est signé par les deux parties.
Symboliquement, il n'entrera en vigueur que 6 heures plus tard, afin que les combats cessent le 11e jour du 11e mois à la 11e heure. Le dernier mort français, Augustin Trébuchon, tombe à 10h45. Quant à Esberger, il sera lui aussi victime de la guerre en 1921. Forcené là-bas, étant persuadé qu'il était responsable de la défaite allemande et de cet armistice amer.
Je vous propose maintenant d'écouter une poésie récitée par 2 élèves.
Mon enfant, à peine 18 ans et te voilà parti. J'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire, tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre.
Je crains le pire et je retiens mes larmes quand je te vois partir, fier avec ton arme. Reviens mon fils, reviens, cette guerre te tuera. Sans toi je ne serai plus rien, quand ta vie elle fauchera. Fabienne Berthomier.
Je remercie les enfants pour leur implication et je vous souhaite une bonne journée.